I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu me répètes toute la journée que toi, tu es une petite merde à côté de Mozart, Beethoven et Haydn qui vont tout apprendre de A à Z sur ce que c'est que faire de la musique. Et toi, tu n'as rien à dire. Tu te tais, tu joues la partition exactement comme c'est écrit. Tu fais pas d'écart. Tu ne peux pas exprimer. Et du coup, il y a des gens qui sont kéblo, tu vois. Genre, moi, après ça, ça m'a kéblo de ouf, tu vois. Et il a fallu du temps pour que... Et je suis encore en train de travailler sur ça. Sur le fait de débloquer la créativité. Parce que si tu te sens sous l'autorité, sous le regard de qui que ce soit, tu peux pas créer quelque chose de façon désinhibée, en fait.
Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
Sophie, déjà, comment tu vas ?
Bien.
Ouais. Est-ce que tu peux nous dire à cet instant T quels sont tes projets en fait en cours ?
Il y a plusieurs projets chorales. Il y a Marie Manonga, la chorale afrofemme. Il y a le chœur Oshun, un chœur plus tourné vers le gospel, la soul, le R&B. Il y a l'atelier chorale. C'est mon petit atelier avec que des meufs. C'est que des chorales avec que des meufs. On explore les choses. Et puis il y a mon projet de création. Avec des musiciens qui m'accompagnent, basse, batterie, trois chœurs, je suis à la harpe et au chant. Et je joue aussi dans deux autres groupes, il y a Section Maloya et Apachaté. Quand je crée des trucs pour mon groupe ou que je fais des morceaux, en fait ça me donne un. Ou plutôt, je me crée un espace. Un espace où je peux dire les choses et qui, du coup, en fait, plus je vais dans cet espace-là et plus cet espace-là il grandit et il s'épanouit, moins j'ai besoin de répondre aux gens, moins j'ai besoin de m'énerver devant la vie, parce qu'il y a cet espace, tu vois, où je peux exprimer, où je vais aller chercher ma légitimité, tu vois, un peu ma valeur d'une certaine manière, où je vais en tout cas valoriser ce que je peux créer, ce que je peux faire, tu vois. Après, le chœur Oshun, c'est un chœur que j'ai créé à la rentrée avec des chanteuses professionnelles qui déchirent leur mère, qui ont ce goût pour la musique afro-américaine. Et j'avais envie de créer un espace où je puisse faire les arrangements que j'ai envie de faire avec un groupe qui allait kiffer parce que c'est leur culture musicale, tu vois. Et ouais, et chanter ensemble, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, en fait, tu vois. C'était logique de créer ce chœur. Marie Manonga, c'est intéressant parce que j'avais vraiment envie de cet espace-là, tu vois. En fait, il est venu sur moi au moment où j'étais en train d'essayer de le créer. Et en fait, au moment où je me rendais compte qu'en fait, j'avais pas les moyens de le créer seul. Tu sais, je suis pas dans le milieu militant où j'étais là en train d'essayer de convaincre d'une certaine manière, genre, les potos que si, c'était une bonne idée de faire un truc en non-mixité et tout, que ça pouvait être grave intéressant. Et à ce moment-là, genre, la chorale, elle est tombée sur moi, tu vois. On a commencé à travailler. Et plus le temps passe, plus ça me fait réfléchir, tu vois, sur le sens de ce projet, comme je te disais l'autre jour. Le fait que je pense que ce projet, qu'en fait tout le monde gagne en fait à ce que ce projet gagnerait à découvrir, tu vois, à écouter. Parce que genre cette non-mixité, elle parle, enfin en fait elle dit surtout beaucoup de nos différences en fait, tu vois. Et en fait, ça fait vraiment... psychologiquement, en fait, ça joue beaucoup d'être régulièrement dans cet espace où je suis avec des personnes qui, dans le monde extérieur, seraient considérées... Enfin, tu vois, genre, si on est deux, c'est un peu comme s'il y avait un doublon, tu sais. Enfin, tu sais, on est censé être un peu à la même place ou avoir le même genre de... On a un peu les mêmes attentes, tu vois, où on doit remplir une sorte de rôle chelou ou je sais pas quoi. Et en fait, d'être toutes dans le même espace ensemble, c'est comme si ton cerveau il recalculait, en fait, tu vois, comment tu te places par rapport aux gens et en fait quel est le décalage entre la personne que tu es et la personne qu'on a projetée sur toi. Ça aide vraiment à identifier en fait ça avec plus de précision, et ça m'aide beaucoup. Et aussi sur le plan musical, tu vois, je trouve ça intéressant d'aller chercher en fait des chants de partout, en fait. Des chants afro, en fait, de toute la diaspora, tu vois. Et ça parle aussi, en fait, de nos différences, tu vois. De nos richesses, en fait. De la richesse de ce peuple, tu vois. Genre de la résilience, en fait. Genre, partout où ils ont été maltraités, partout on les a envoyés. Ils ont inventé du son qui déchire sa mère.
La lumière n'est jamais partie.
Bah ouais. Et c'est ouf, hein. Il y avait comme toujours un fil conducteur, mais à chaque fois, on sait le truc qui se développe en fractal, tu vois. En fait, on sent qu'il y a un fil conducteur, tu vois, il y a une racine collective. Et en même temps, une créativité, genre, incroyable, tu vois, partout sur la fucking planète.
Est-ce que Sophie, tu veux bien me parler de ton enfance ?
Je suis née dans l'année du rat, l'année 96, l'année du rat, en astrologie chinoise, en novembre, dans le 92, à Clamart. Et en fait, on a grandi dans une petite ville de la banlieue sud de Paris. Petite ville bourgeoise blanche. C'était compliqué.
Pourquoi c'était compliqué?
C'était compliqué parce que les blancs n'étaient pas prêts. Les gens n'étaient pas prêts, quoi. Et pour moi, ça allait mieux déjà. Et en fait, plus le temps passe, mieux ça va. Parce que typiquement, il y a quelques années, je suis retournée... j'ai fait des ateliers musique dans l'école primaire où j'étais. Et j'ai vu en fait que là où nous, on était 1-2 par classe, en fait, il y avait beaucoup plus de petits enfants noirs, arabes et tout. Donc, que ça s'ouvrait un peu, tu vois. Enfin, après, je sais pas comment... Enfin bon, en tout cas, c'est pas la même situation que quand t'arrives à 6 ans et qu'on te dit « je vais te tuer parce que tu es noire, en fait wow. ». Donc, et ça, c'était déjà... Donc moi, quand je suis rentrée en primaire, j'ai entendu ça. J'ai fait « ah bon, ah bon, je suis noire ». Première découverte. Ça a pas l'air d'être un bon délire. Disons qu'en fait, la daronne, elle était vraiment dans un truc de... C'est un peu genre l'ascension sociale. On va gravir les échelons. Et en fait, c'est pour ça qu'elle a tout fait pour qu'on habite spécifiquement dans cet endroit-là, tu vois. Et là où en fait ma mère elle est venue de Guadeloupe en France, quand elle avait 18 ans. Et ouais, son envie c'était d'avoir... c'était pas forcément évident d'évoluer dans ce milieu-là. Après, ce qui était cool, c'est que du coup elle nous poussait de ouf à... Elle, son truc c'était l'éducation. Genre, fallait vraiment que... qu'on ait genre une bonne éducation, qu'on fasse des trucs de blanc. Et du coup, ma sœur, elle a fait du piano classique au conservatoire. Il n'y a que mon frère qui faisait pas trop de musique, il était plus en mode, il faisait du sport et tout. Moi, je kiffais grave chanter quand j'étais petite. Et en fait, on est allé un soir dans cet endroit pour voir un concert. Et il y avait une chanteuse lyrique. Et je vois la chanteuse lyrique et je suis restée genre vraiment, vraiment sur le cul, tu vois. Genre, ça m'a vraiment fait un truc. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, tu vois.
T'avais quel âge ?
J'avais 8 ans. Et du coup, j'ai arrêté la danse. Et dans le même, dans la même structure, je suis allée prendre des cours particuliers de chant lyrique. Et en fait, après, genre le CACB, c'est devenu grave cher. Au bout d'un moment, la daronne, elle ne pouvait plus gérer. Mais il y avait le conservatoire. Et en fait, le conservatoire, ce qu'on ne sait pas, mais en fait, c'est pas une question d'argent, c'est une question de comment genre c'est fait. Parce que là, le conservatoire, c'est public et c'est aux conditions familiales. Donc en fait, c'était moins cher d'aller au conservatoire que de faire des cours dans une... dans un centre, genre... Et du coup, on a fait ça. Et en fait, quand je suis arrivée au conservatoire, on m'a dit « Non, mais tu peux pas faire du chant lyrique parce que t'es trop jeune, il faut que t'attendes d'avoir... que ta voix, elle est muée et tout, tu vois. » Après que je savais pas du tout, on m'a dit « Mais tu peux faire un instrument en attendant. » Mais ouais, on m'a dit « Ouais, choisir un instrument. » Du coup, je me dis « Ouais, le piano, je sais pas, la guitare, je sais pas. » Et il y avait ce truc-là dans la maison... toujours une, enfin, tu vois, une housse par-dessus, impossible d'y toucher. Je savais que c'était un instrument de musique, mais je savais pas ce que c'était. Et je me suis dit, bah, go faire ce truc chelou, je sais pas ce que c'est, et on va voir, tu vois. Et du coup, j'arrive dans la classe de harpe à genre 10 ans, et je savais pas du tout ce que c'était. C'était pas en mode, j'ai eu un coup de cœur sur cet instrument, sur le son et tout. Je connaissais pas le son, en fait, tu vois. J'avais juste vu... à la maison, la petite harpe celtique qu'on avait qui est là. Et du coup, j'ai commencé la harpe au conservatoire. J'ai commencé à travailler avec Florence. J'ai tout... enfin, tout ce que j'ai fait à partir de là. Enfin, c'est vraiment avec elle, en fait. On a passé 8 ans à travailler ensemble. Et au bout d'un moment, ça m'a grave saoulée. Parce que, en fait, j'ai commencé à sentir... un peu ce que je ressentais à l'école, tu vois, dans un truc où en fait ce que j'écoutais à la maison, voilà, j'avais kiffé le chant lyrique, j'aimais bien faire de la musique classique au conservatoire et tout, mais en fait on a vraiment, enfin mes sœurs elles m'ont vraiment fait écouter, enfin elles m'ont fait écouter du R&B en fait, tu vois, du D'Angelo, du Anthony Hamilton, Maxwell, Music Soul Child. C'est une culture musicale, en fait, qui n'est pas du tout celle que je retrouve au conservatoire. Et j'aimais aussi les trucs que je découvrais là-bas. J'aimais pas tout, mais il y avait des trucs qui me parlaient de ouf, tu vois. Mais en fait, il y avait comme un bail de... genre de hiérarchie chelou, tu vois. Et en fait, ça me faisait grave chier.
C'était quoi la hiérarchie ?
J'avais l'impression, moi, ce que je considérais plus comme ma culture musicale, à savoir les trucs que j'ai grandi en écoutant et les choses que ouais qui m'ont vraiment accompagnée, tu vois, genre qui ont été dans mes oreilles à la maison, dans l'intimité et tout pendant mon enfance, c'était pas des trucs qui étaient validés, tu vois. Et tous les ans il y avait un truc qui s'appelait l'Odyssée de la harpe, genre un petit festival genre sur 2 jours où t'avais nous on préparait ça pendant des mois et tout, à chaque fois tous les ans il y avait un thème différent machin, et cette année là c'était les musiques actuelles. Et il y a Florence qui vient me voir, qui me dit « Ouais, il faut envoyer des morceaux qui vous plaisent et on va choisir avec l'équipe des trucs à proposer et tout. » Donc c'est vraiment ce que vous écoutez, ce qui vous plaît, machin. Et c'était pas à proposer. Et du coup, mais bien sûr, moi j'envoie un morceau de Beyoncé qui s'appelle « Upgrade yeah. ».« Let me upgrade yes. » Et un morceau qui déchire sa mère, on est quand même tous d'accord oui. là-dessus, tu vois. Et genre, je lui ai envoyé ça, et je me souviens plus, je crois qu'en fait, elle m'a même pas répondu.
Waouh.
Genre, j'ai essayé peut-être de voir s'il y avait moyen, mais en fait, c'était juste pas possible, en fait, tu vois. Je me souviens aussi de ce moment où ils m'avaient proposé, donc évidemment, ils ont mis Upgrade de côté, et ils voulaient faire Georgia de Ray Charles, tu vois. Parce que ça aussi, en fait, tu vois, genre, dès qu'il s'agit de... donc musique actuelle, bon, ça veut pas dire grand chose, mais disons qu'il y avait pas mal, enfin il y avait quelques trucs qui étaient en mode enfin Ray Charles c'est afro-américain, tu vois, donc moi je me sentais plus concernée par par Ray Charles que par... Enfin, je savais que moi, dans ma culture musicale, j'avais beaucoup plus écouté des choses qui étaient... qui descendaient de la musique de Ray Charles que, genre, les personnes qui venaient me dire « Viens chanter Georgia », tu vois. Enfin, à aucun moment, on s'est posé la question de qu'est-ce qui veut dire ce morceau, pourquoi est-ce qu'on le joue, pourquoi est-ce qu'on propose, genre, à Sophie de le chanter. S'il fallait faire un truc gospel à la chorale, on allait me dire ah, viens faire le solo. Et en soi, moi, je suis contente parce que... Enfin, c'est des trucs que, de toute façon, j'aurais eu envie de faire. Mais je sais pas comment expliquer, il y avait une sensation chelou, tu vois. Mmh. Et ouais, moi, j'avais envie de travailler, j'avais envie de créer des choses, tu vois. Et de faire peut-être un peu d'improvisation et tout. Et... En fait, c'était pas l'endroit où je pouvais, en fait... Enfin, il y a des choses que tu peux aller chercher quelque part et d'autres choses que tu peux aller chercher ailleurs. Et disons que moi, vu que bah, j'étais petite ou après j'étais ado, j'avais pas forcément capté que j'étais pas au bon endroit. Donc en fait, je suis restée un peu... J'ai été un peu, soit bah, dans les premières années, un peu dans la soumission au truc, dans une sorte de frustration en fait. Et après, j'étais carrément en lutte, alors qu'en fait, j'aurais pu juste compléter. Avec une autre formation, ou genre aller ailleurs, ou tu vois. Mais c'est vrai que j'étais un peu. Je me suis sentie un peu seule, tu vois. J'ai pas forcément eu le courage d'aller chercher peut-être ce que j'avais envie de faire, ou l'introspection de. En fait, vraiment d'arriver à mettre le doigt sur ce qui me posait problème, tu vois. En fait, c'était vraiment genre la culture. Enfin, la culture dominante un peu, tu vois, genre institutionnalisée, machin, où ça passait de chanter un truc catholique, ou si on allait chanter des trucs d'autres cultures, ça allait être des trucs vraiment vieux. Ou...
Et j'ai l'impression que ça rejoint un peu, bah, au final, ce qu'on appelle, avec les grands termes, la suprématie blanche, quoi. Ça infuse partout, et d'autant plus des institutions comme le conservatoire. Mais c'est vrai que peut-être ouais, c'est un peu plus compliqué de s'en rendre compte quand tu grandis dans cette institution.
Bah ouais, parce que autour de toi les gens ils voient aucun problème, donc forcément tu te sens un peu parano, tu vois. Tu te dis est-ce que c'est moi qui craque. Ouais, disons que le conservatoire c'était un peu ce qui me permettait d'échapper genre au reste, genre dans la vie, tu vois, genre à l'école et tout. En fait, faut s'imaginer petite ville de banlieue parisienne, mais genre vraiment avec des gens qui ont vraiment de l'argent, et du coup c'est pas vraiment comme si t'étais en banlieue, c'est un peu comme si t'étais à Paris, tu vois, genre dans un quartier un peu huppé ou quoi, tu vois. Enfin, en fait ils nous disaient qu'on était au-dessus, genre qu'on était qu'on allait devenir soi-disant genre une sorte d'élite ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, tu vois, sur le prestige du lycée dans lequel on était, parce qu'en fait c'était une cité scolaire, j'ai fait collège et lycée là-bas. Du coup, je suis restée 7 ans. C'est amertume que je ressentais et que je ressens encore souvent, tu vois. Qui fait un peu partie de comment je vois les choses, avec moins d'optimisme. Moi, je me posais pas forcément la question de ce que j'allais faire. Enfin, j'ai pas l'impression, rétrospectivement, que je me posais cette question. Après, peut-être que quand j'y étais, j'avais tout un tas d'idées, tu vois. Mais j'étais plus en mode... Enfin, il y avait beaucoup de gens qui, déjà tôt, disaient « Moi, je veux gagner 3000 ». Et c'était beaucoup ça, c'était beaucoup genre « Si t'as pas le vêtement comme ça, machin, si t'as pas ceci, si t'as pas cela, alors c'est compliqué. Si tu portes pas de soutif, c'est compliqué. Si tu t'épiles pas les poils des mollets, c'est compliqué. Si tu mets pas du rouge à lèvres, c'est... Bon, ça passe, mais peut-être attention quand même à toi, tu vois. »
C'est bizarre.
T'es un peu chelou, ouais. T'as un peu... T'as vu, t'es un peu rebelle. Genre, le moindre truc, t'es un peu rebelle, tu vois. Et vraiment, un sens de la norme hyper, hyper fort, en fait, tu vois. Genre, hyper sexiste.
Et comment tu te construis dans ces années-là, qui sont très charnières, comment t'arrives à te construire le rapport à toi-même, à qui tu es, le rapport au corps, le rapport aux autres? Est-ce que t'arrives à... avoir une petite communauté d'amis.
Est-ce que tu avais des amis, Sophie?
Non, mais c'est pas, tu vois. Mmh. Comment t'arrives à te construire à cette période-là, en dehors de la musique?
Je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je m'y sentais pas à l'aise en fait. J'ai vraiment essayé de ouf. Au début, j'ai essayé de ouf de rentrer dans le truc, tu vois. Mais c'était juste pas possible en fait, tu vois. Genre, c'était juste pas possible. C'était trop d'énergie. Et j'étais pas capable. Et après ça, j'ai juste un peu envoyé bleu, tu vois. En mode. Ok. En première, je commençais à taper des phases, genre. Je faisais des crises d'hyperventilation. En cours, je devais quitter les cours et tout. Après, je me suis fait faire un emploi du temps aménagé. Genre en terminale, j'avais 8 heures de cours par semaine. Et déjà, ça allait mieux parce qu'on était vraiment pas nombreux en classe, parce qu'on était en L et on était que 15. Et du coup, on se connaissait tous et on a passé genre du temps ensemble. Mais en fait, je pense que les choses, elles ont vraiment changé pour moi quand en fait, il y a eu un concours auquel on a participé avec des potes. Ça s'appelait le tremplin lycéen. Genre, t'avais deux gros lycées dans la ville. Mais d'ailleurs, tu vois, genre dans cette ville, il n'y avait pas que deux lycées. Il y avait aussi un lycée professionnel. Mais étrangement, il n'était pas inclus dans le bail du tremplin lycéen, tu vois. Just saying. Et une année, j'y suis allée avec une pote. J'étais en mode, mais je comprends même pas ce que je fais dans la salle, en fait. Je veux jouer, moi aussi. Je veux monter sur scène et tout avec des potes. Ça a l'air tellement bien, machin. Et le lendemain, j'appelle ma pote qui était... une meuf avec qui justement on avait des points de croisement parce que elle est arabe et elle était aussi au conservatoire et on avait un peu les mêmes inspirations musicales et la même vibe et il y avait une sorte de facilité, genre il y avait comme des trucs enfin moi je sentais que j'avais moins besoin de me gêner avec elle, même si on était toutes les deux un peu sous le joug de de l'oppression du grand groupe, tu vois. Et elle y blendait comme jamais. C'était un poisson, tu vois. C'était un poisson dans l'eau, cette meuf. Elle, tu vois, chacun trouvait ses techniques, tu vois. Moi, j'étais plus en mode foutez-moi la paix, mais... Et je l'appelle, je lui dis, mais en fait, viens, on monte un groupe, on fait le tremplin, en fait, tu vois. Elle me dit, mais grave. Bon, on a piano, on a voix, il nous faut une batterie, une basse. Et après, je suis un peu butée pour essayer de trouver, genre, des morceaux et tout. J'ai proposé au groupe. On a monté le truc ensemble. On a fait le tremplin, on a gagné.
Ok.
On a fait un petit enregistrement, tu vois. Des morceaux qui traînent dans le dark web, dans le dark SoundCloud. Et genre, à partir de là, les choses, elles ont un peu changé socialement pour moi, tu vois. Où j'ai gagné comme des points, tu sais. Ça m'a beaucoup flattée, genre, parce que ça m'a un peu soulagée. D'un côté, ça m'a un peu dégoûtée, parce que je me suis dit... Enfin, j'ai toujours été ce que je suis, en fait, tu vois, c'est juste là. Après, terminale, je pète un câble, en mode le système, l'éducation nationale. Je supporte pas d'entendre, non mais les grands génies, à 17 ans, à 16 ans, ils avaient tout compris, vous comprenez. En fait, ce truc-là, il a duré sur des années, en fait, tu vois. Je veux prendre le pouvoir, je veux pas qu'on me dise... Parce qu'après, j'ai enchaîné, la daronne, elle mettait la pression pour que j'aille à la fac, parce que tu comprends, elle était encore dans son truc de l'échelle à gravir, là. Et du coup, je me suis dit, vas-y, moi, j'ai envie de continuer sur la harpe et tout, parce que au final, je voyais qu'avec le temps, ça s'écrémait de ouf, et que bah, moi, j'étais toujours là. Donc je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc à... Et du coup, je rentre en... Je me dis, vas-y, je suis sur ABB, là, en train de bader... Je me dis, vas-y, je vais aller genre en LEA, tu vois. Et je vais continuer le conservatoire à côté et on verra, tu vois. Je suis restée un mois, deux mois. À un moment, je regardais une interview avec Maboula Soumaoro et Mam Fatounian, où elle disait qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile de dire oui, des gens pour qui c'est plus difficile de dire non, tu vois. Enfin, je suis vraiment plus du côté où, genre, je peux pas, en fait, rester trop longtemps dans un truc qui me va pas. C'est beaucoup plus difficile que de me mettre dans une situation qui peut être plus compliquée, même si je dois partir, mais je suis obligée de, genre, psychologiquement de partir, puisque sinon je peux pas, juste, tu vois. J'ai dû me réorienter, et je suis allée en musico, et musicologie, et c'était grave intéressant, vraiment c'était hyper intéressant. Et en gros, tous les renégats, qui étaient ni dans l'orchestre, ni dans les trucs un peu soi-disant prestigieux de la fac, tu vois, on était dans un truc qui s'appelait soi-disant musique de chambre, tu vois. Donc musique en petit comité, en gros, c'est juste un... Mmh. Et en fait, on a essayé ensemble, et en fait, on n'a jamais réussi à faire un truc, tu vois. Après, bon, voilà, le temps nous était compté, on était dans une circonstance particulière, mais en fait, j'ai vraiment rencontré la résistance de... du monde, genre, de... On a tellement... Tu sais, on te répète toute la journée que toi, tu es une petite merde à côté de Mozart, Beethoven et Haydn qui vont tout apprendre de A à Z sur ce que c'est que faire de la musique. Et toi, tu n'as rien à dire. Tu te tais, tu joues la partition exactement comme c'est écrit. Tu fais pas de d'écart. Tu vois, tu ne peux pas exprimer. Et du coup, il y a des gens qui sont kéblos, tu vois. Genre, moi, après ça, ça m'a kéblo de ouf, tu vois. Et il a fallu du temps pour que... Et je suis encore en train de travailler sur ça. Sur le fait de débloquer la créativité. Parce que si tu te sens sous l'autorité, sous le regard de qui que ce soit, tu peux pas créer quelque chose de façon désinhibée, en fait. C'est impossible. Puis le conservatoire, c'est devenu compliqué. Ma prof, elle était là en mode absolument, il fallait que je travaille un morceau, j'avais vraiment pas envie de le travailler. Enfin, il y avait des trucs où genre tout est devenu super... super rigide, en fait. Je sentais des sortes de rigidité autour de moi, tu vois, comme si les étaux, ils se resserraient, tu vois. Et tout d'un coup, je commençais à comprendre, genre, toutes les personnes qui avaient quitté le conservatoire, tu sais. Et je me rendais compte que j'étais un peu dans cette vibe de, ouais, genre, j'ai pas lâché, tu vois. Tu sais, le truc américain, un peu de marche ou crève, tu vois, et tu vois les gens crever, enfin, métaphore, hein. Et tu t'es là, toi, tu te dis, ouais, je marche encore. Et tu sais, tu fais partie des derniers, tu vois, genre... Et là, j'étais en mode... J'étais en train de passer de l'autre côté, tu vois, genre sur l'autre bord, en mode... When I get it all straight I'm gonna take my things and leave. Oh, just give me some time. To leave, I'm about to go, I'm about to go, Lord and Lord and do. I'm about to go, Lord and Lord and do. I'm about to go, Lord and Lord and do. I'm about to do the Levi, Lord and do 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 be, and Lord and do 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 do. I'm about to go, Lord and Lord and do the bye. Hmm, it's a little do.
Tu l'appréhendais comme un échec, ça ou pas?
Bah forcément de ouf,
ouais.
Attends, je suis rentrée là-bas, j'avais 10 ans. Là, j'avais 18... J'avais 18-19 ans. En fait, je commençais ma 9e année et je rentrais en fait dans une formation qui donnait un diplôme. Tu vois, une formation en 2 ans. Et genre, pour rentrer là-dedans, il faut quand même passer un concours. Donc en fait, tu bosses genre, pour passer le concours quand même, tu vois. Donc en fait, quand tu te barres... pas longtemps après que tu finis pas, tu vois, alors que le truc il dure 2 ans et ça fait déjà 8 ans que t'es là, tu te sens un peu dans l'échec,
ouais, ouais,
tu vois, genre c'est un peu inévitable, je crois. Donc, ouais, ça a été genre vraiment la période des échecs, genre LEA échec, musicaux échec, conservatoire, ça fait 1000 ans que j'y suis et je décide de m'en aller alors que je commence un truc, échec, je pars de chez mes parents, je suis à demi à la rue. Échec, j'ai pas de taf, j'ai pas d'appart, je suis en rupture familiale, j'ai pas d'envie, je suis en dépression. Genre,
Qu'est-ce qui t'arrive pour remonter la pente? Qu'est-ce qui se passe en fait, genre, pour que t'arrives à t'en sortir? Où est-ce que tu t'en sors?
Est-ce que je m'en sors? Bah, je suis pas là où j'étais, c'est évident, tu vois. En fait, à ce moment-là, il se passe que des... Enfin, c'est un peu genre comme un... Je sais pas, c'est comme si dans ma tête, j'étais genre debout au milieu d'une... Tu vois, l'autoroute. Genre, t'es sur l'autoroute debout, à poil, avec les voitures qui passent à côté de toi, tu vois. Genre, dans ma tête, c'était un peu ça, tu vois. Et je sais pas, je suis juste restée dans l'état, en fait, tu vois. J'avais pas de volonté de forcément en sortir, mais j'avais pas non plus la volonté d'y rester... J'avais pas la force de faire quoi que ce soit. J'avais pas d'envie. Ou mes envies étaient super... vraiment en dessous de beaucoup d'amertume et de désespoir. Donc en fait, je fumais pas mal. Je faisais rien. À un moment, il fallait que je fasse du bif, donc j'ai fait du babysitting. J'étais dans l'inaction et un peu genre la léthargie, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai tout quitté et que tout s'est barré en couille, il y avait un peu ce truc où j'étais grave... Je parle au passé, mais en fait, enfin, tout ce que je dis de ce moment-là, c'est des choses que je ressens encore aujourd'hui, tu vois. Mais je réagis différemment à ces réflexions et à ces émotions, tu vois. Mais il y avait grave, genre, une colère vraiment, enfin, tu sais, qui te déborde, tu vois, qui te dépasse, qui te rend vraiment incapable, en fait, de dans la moindre situation, la moindre publicité, tu vois, genre le moindre rappel au fait que c'est comme ça qu'il faut, tu vois, que ce soit, genre je supportais pas, tu vois. Et il y avait des phases aussi de
féminité.
En fait, tout, c'était vraiment genre l'argent, le capitalisme, genre ça me faisait déprimer de ouf, genre le racisme à Sceaux, là, dans le 92, j'avais envie d'égorger les bourgeois, j'étais en colère, j'étais pas bien. Genre, étrangement, ils font naître en nous des sensations. Et... ouais, genre vraiment, enfin tu sais, le poids de toutes ces choses-là, genre ça vraiment, ça me... Je savais pas, je voyais pas d'issue, je voyais pas comment est-ce que j'allais pouvoir, en fait... trouver ma place, en fait, tu vois.
Et de cette colère, de ce poids, de ce ras-le-bol, en fait, est-ce que tu t'arrives à le canaliser? Est-ce que tu arrives à trouver des ressources? Est-ce que tu es dans une recherche, justement, de... même dans cette inaction, tu vois, est-ce que tu es dans cette recherche de comprendre?
À ce moment-là, je crois qu'il y a un peu de tout. Parce que... En fait, c'est un va-et-vient, parce que je supportais pas, genre, je regardais un moment, j'ai... Oh là là. J'ai essayé de lire le bouquin de Fanon, là, mais tu peux pas lire ça et après te croiser des blancs dans la rue. C'est pas possible. Genre, c'est... Non, vraiment, genre, c'est chaud, hein, genre... Enfin, moi, je sais que ça me...
Lequel, Power Masculin.
Ah ouais. Mmh. J'ai jamais fini, il est encore là et tout.
Tu le regardes.
Mais grave, Léandre, il se moque de moi parce que, genre, il me dit, ouais, chez Sophie, il y a des livres, il faut pas les ouvrir. Hein, surtout pas les ouvrir.
Ouais, Pandore.
Mais grave. En fait, moi, ça m'a grave soulagée de, tu sais, ça fait descendre la colère parce que, tu sais, tu peux vite te dire, c'est tous les gens blancs, ils nous veulent du mal, ils sont machin. Tu sais, genre, tu peux vite. Parce que ça se vérifie trop de fois, tu vois. Et puis, il y a l'éducation aussi, tu vois, genre, de tout le temps. Enfin, tu vois, tout le temps, les darons, ils te répètent de faire attention, de te méfier. Genre, de tout le temps te méfier. Parce que tu sais pas, genre... Mais vraiment comme si t'étais, genre, une biche dans la savane, tu vois. Genre, et que t'as des prédateurs qui veulent ta peau, tu vois. Et du coup, tu sais, tu grandis avec ça. Au début, t'es là en mode, mais non, et tout. Puis après, avec le temps, tu commences à, genre... à presque t'en vouloir d'avoir dit mais non à tes darons, tu vois, genre... Donc il y avait des deux, tu vois, il y avait des moments où je m'enfermais juste parce que je ne pouvais pas, genre, assumer ma personne face au monde, tu vois. Et il y avait des moments où j'étais en mode, mais c'est trop important, je porte quelque chose et je veux savoir, genre, ce que je porte, tu vois, comme mémoire. Et en fait, ça m'écrasait. Mais ça n'a jamais été constant, en fait. Il y avait vraiment des... Enfin, il n'y a que un peu maintenant, tu vois, où en fait, l'équilibre, il se fait. Mais en fait, à chaque fois, ça faisait des trucs où, en fait, je lisais des trucs. Et après, genre, je discutais avec des gens, j'étais choquée, je m'énervais. Genre, je rentrais dans des conversations, genre... Enfin, ouais, passionnée avec des gens qui comprenaient pas du tout, qui me disaient que j'étais dans un délire, ou, tu vois, ou que j'étais paranoïaque, ou que... on avait... Mais non, on a totalement les mêmes chances, on a grandi dans la même ville, on est allé dans la même école, tu comprends? Donc maintenant, tu arrêtes ta parano, en fait, tu vois, genre... c'est bon, genre, vous êtes libre. Et t'es là en mode... Et tu sais, vu que t'arrives pas encore bien à formuler ce que tu dis, genre, t'arrives pas forcément à pointer le truc qui va pas dans... Enfin, tu sais, le truc qui peut faire incohérence dans le discours de l'autre, et tu prends juste tout dans ton émotionnel, et t'es juste là en mode...
Et t'as parlé de la créativité. Comment ensuite, après avoir quitté le conservatoire, comment tu te réappropries en fait cette notion de créativité, dans tout le marasme là, émotionnel, de construction d'identité, etc. Maintenant que tu as un peu plus de champ libre, quel est ton rapport à la créativité à ce moment-là?
À ce moment-là, j'ai arrêté la musique.
Totalement.
Ouais. Mais j'en ai fait un petit peu, tu vois. Mais enfin, vraiment, pas grand-chose. J'étais pas du tout dans une démarche créative. Du coup, en fait, je me suis dit, je vais partir en voyage. C'est vraiment le truc, genre, il y a plein de gens qui ont fait ça. Je suis allée en Bolivie. Et en fait, j'ai passé 2 mois, solo, à juste pas m'en sortir, à être obligée de m'en sortir toute seule, tu vois. Et la musique m'a grave manqué. Genre là, c'est ça, la musique, elle m'a vraiment manqué, tu vois. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais... En fait, je pense que... Il y avait une sorte de... Je m'étais toujours sentie impuissante, en fait, de tout, tu vois. C'est encore un truc que je ressens pas mal, tu vois. Genre, je pense que, voilà... On n'a pas beaucoup de pouvoir, mais je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais quand même du pouvoir sur moi, ce que je faisais. Genre moi, comment je décide de gérer, en fait, tu vois, genre les trucs qui viennent sur moi. Même si je décide pas, tu vois, de ce qui m'arrive. Et ça a fait un peu un turnover et du coup, je me suis motivée. Je sais plus exactement dans quelle temporalité ça s'est fait. En tout cas, j'ai commencé à travailler avec 2 groupes. En entrant, je faisais... des chœurs dans un groupe de Maloya qui s'appelle Kerzar Boutan, qui est le projet d'un chanteur réunionnais de ouf qui s'appelle Sully Doro, qui m'a appris tellement de trucs, ce mec. Genre, et toute l'équipe en vrai de. Enfin, les gars de Kerzar Boutan, c'est juste un délire en fait, tu vois. C'est comment reprendre foi en l'homme masculin, tu vois. Et avec un super beau contraste avec. Enfin, je sais pas si c'était beau, mais. Avec un autre groupe à la même époque pour lequel j'ai auditionné 3 fois. Les gars, ils m'ont fait venir 3 fois en audition, des trucs trop humiliants.
Toujours plus.
Mais grave. Et un groupe d'afrobeat en grosse équipe. Vraiment, quoi.
Est-ce que tu peux parler de la composition? Pourquoi c'est hardcore?
Bah, en fait, c'est un groupe... à l'écrasante majorité blanche, voire là je crois ils sont reformés, il n'y a que des blancs. Ils font de l'afrobeat des années 70 à la Fela Kuti. Ils cherchaient une chanteuse, j'étais je sais pas la combientième, je sais pas combien de chanteuses sont passées par ce groupe là avec des remarques genre en fait tu peux pas parler, genre en répète j'arrivais pas à parler du tout. Ils étaient pas, enfin ils écoutaient pas, enfin c'était vraiment un truc où tu peux pas dire un truc, tu n'as pas aucune légitimité, genre, enfin c'était vraiment, enfin c'était ferme ta gueule et chante bien en fait, tu vois, genre, et be fresh en fait surtout, tu vois, et enfin moi je l'ai vraiment vécu comme ça. Je me souviens que quand ils m'ont ajouté à la conversation de groupe après avoir validé que j'allais travailler avec eux, genre... J'avoue, j'ai scrollé vers le haut, mais parce que je voulais savoir, tu vois, genre, ce qu'ils en avaient pensé, quels étaient les axes de... Tu vois, genre, les axes d'amélioration, comprendre un peu pourquoi j'avais auditionné autant de fois, tu vois. Ils hésitaient entre moi et une autre chanteuse d'une 40aine d'années qui chantait super bien, une daronne... un peu dodue, tu vois. Et... Sophie, elle présente bien. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai senti mon cœur descendre dans mes orteils, tu vois. Et à l'époque, il y avait un batteur, genre c'était le seul avec qui je m'entendais bien, un batteur qui s'appelait Ibrahim, qui était grave des bars. Il me rappelait de ouf Barra. Ils avaient un peu les mêmes caractéristiques physiques, genre grand, un peu... et puis aussi dans un truc un peu... Tu sais, tu sens genre comme une... Je sais pas, il y avait une sorte de... Il y avait une sorte de Jesus-like, tu vois. Tu sais, t'as des gens qui disent, comment c'est à Jésus. Et bah pareil, Ibrahim, ils avaient ce truc-là, genre, tu sais, tu les vois, tu vois que leurs yeux regardent loin, tu sais, t'as des gens comme ça qui regardent loin avec leurs yeux, tu vois. Et dans ses paroles aussi, genre, il parlait, tu vois, comme ses yeux qui regardaient loin, tu vois. Et il m'a dit, mais pas du tout, genre, enfin, je pense pas que ce soit ça. Enfin, tu sais, il était grave, mais tu vois, je pense qu'il parlait pour lui, chacun parlait un peu en son nom, tu vois. Et peut-être que c'était pas forcément un truc sur lequel tout le monde s'est dit ça collectivement, peut-être que juste une personne a dit ça et que genre...
Je pense que... Bah ouais, mais c'est aussi cette cohésion masculine qui dit beaucoup, en fait, tu vois, le fait que, tu sais, que ça se retrouve énormément, n'importe quel milieu, en fait, artistique ou pas, tu vois, et que l'apparence, en tout cas, quand il s'agit des femmes, enfin, ce truc de, ouais, de l'apparence, au-delà même du talent, en tout cas, de le talent, c'est une notion qu'on peut mettre à mal aussi, mais bref, mais... Et c'est en fait ce silence, tu vois, cette solidarité masculine qui fait tiquer, et ce que tu racontes là, tu vois, c'est à la fois révoltant, mais pas tant étonnant que ça, tu vois, c'est ce qui est dommage d'ailleurs.
Et je me suis retrouvée toujours à fond dans 15 arbres boutants, avec une expérience grave intéressante, où en fait j'ai vraiment découvert cette musique, genre le maloya, tu vois. Non, je connaissais pas du tout. Grave spécial, tu vois. Grave nouveau. Grave fort. Celui, il a une voix. Celui d'Oro, il a une voix de ouf. Il y avait vraiment une recherche et une authenticité dans ce groupe. Et c'était plus facile aussi pour moi de participer à ce groupe en sachant que eux, ils étaient... Enfin, en tout cas, Sully et un autre mec aussi qui avait grandi à La Réunion. Sully était réunionnais, donc en fait, il nous transmettait sa culture, tu vois. Et du coup, je me sentais genre... Moi, je me sentais bien dans ça, tu vois. Là où, dans le groupe d'Afrobeat, où genre... c'était pas très cohérent pour moi, tu vois. To go through, then I think about your love, oh, so damaged. Then I think about what I've heard.
C'est quoi du coup le maloya?
Le maloya, c'est une musique traditionnelle qui vient de La Réunion. C'est une musique d'esclaves en fait. D'esclaves et de descendants d'esclaves. Et qui a été interdit même. J'ai appris ça à un moment carrément. T'avais pas le droit de faire du maloya. Donc tu sais, c'est vraiment percu, chant, tu vois. C'est vraiment musique trad et tout.
Et qu'est-ce qui te touche là-dedans? Qu'est-ce qui t'a touché du coup?
En fait, ce que j'ai aimé dans l'expérience collective, c'est vraiment le fait de tous faire plus ou moins la même chose en même temps. Mmh. C'est-à-dire que moi, je kiffe le chant choral, je kiffe le fait de chanter ensemble. Et en plus, le fait de faire de la percu ensemble et que tout le monde fasse percu chant, je trouve que ça crée une synergie de ouf, en fait. Alors, j'aime l'énergie, j'aime le question-réponse, tu vois, j'aime quand le lead il chante une phrase et que nous on répond la phrase, tu vois, et que les gens ont envie de danser aussi simplement, tu vois, genre l'énergie qui se dégage. J'aime comment dans cette esthétique-là, il peut y avoir plein de nuances en fait, plein de subtilités. Tu vois, je trouve que c'est un style qui est hyper... il se passe plein de choses en fait, tu vois, il faut rentrer dedans. Genre, il y a plein de choses que j'ai appris... sur le rythme en fait, la transe dans le maloya, tu vois, ça c'est un truc que j'ai jamais ressenti quand j'étais en cours au conservatoire, tu vois. Alors, la transe, pour moi la transe, c'est vraiment quand en fait il y a une ritournelle où il y a un truc qui tourne, tu vois. Et c'est comme genre ça rentre le temps comme dans un truc cyclique, alors que le temps c'est... Enfin tu sais, ça avance de façon linéaire, enfin c'est ce qu'on imagine en tout cas. Mais tu rentres dans une sorte de spirale, tu vois, comme dans une bulle comme ça. Et il y a cet instrument là, le berimbau. C'est une sorte de... En fait c'est comme une harpe, mais il y a une corde. Et tu tapes avec une petite tige en bois, tu vois. Et ça fait des down, 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 des down. Et en fait, de t'avoir des sons comme ça qui restent, tu vois, dans un truc vraiment cyclique avec te mettre vraiment dans une ouais, dans une transe, tu vois. Et la variation des atmosphères, tu vois, comme je te disais, genre la subtilité, tu peux avoir des, enfin, il y a plein de manières en fait différentes de créer la transe, tu vois. J'aime bien aussi le fait que c'est une musique qui peut, genre, qui s'arrête jamais, genre ça peut, genre, s'enchaîner. C'est un truc, ils appellent ça le cabar. On fait ça souvent à la fin des concerts avec Section Maloya, où genre on va descendre dans la salle et on va jouer et ça s'arrête jamais. Genre et c'est juste c'est hyper intense et pulsé. C'est le moment où les gens dansent, ou ceux qui connaissent les chants, ils peuvent venir aussi répéter les phrases avec le cœur. Et il y a un truc comme ça de vraiment lâcher, tu vois, genre lâcher le corps, lâcher la tête, tu vois. Il y a un truc qui est vraiment dans l'utilisation de la voix, tu vois, aussi, dans un truc moins... on n'est pas sur comment est-ce que je place ma voix, comment est-ce que... En fait, c'est bam, tu vois, genre, le gars, il balance son truc.
Est-ce que tu dirais que pour toi, la musique, c'est une recherche perpétuelle de la transe?
Non, pas forcément, parce qu'il y a des musiques qui sont pas forcément... voulu pour être de la transe, tu vois.
Après, ce que j'entends par transe, c'est il y a la transe qui, où on exulte et où le corps parle, et etc. Toutes les expressions sont extériorisées. Et en fait, parce que la transe, c'est un état modifié de conscience. Et la musique et le chant et tout, en fait, tout ce qui est un peu de l'art de l'illusion, entre guillemets, en fait, les arts nous mettent dans des états modifiés de conscience. Quand on regarde un film, on est déjà dans un état modifié de conscience. Au théâtre, quand on écoute de la musique, on est dans un autre monde. Et en fait, ça me fait penser un peu à ça. Quand tu parles de transe et de ce truc de lâcher prise.
Ouais, du coup, dans le sens de... ouais, comment tu l'expliques, je suis assez d'accord. Bah, l'idée, c'est de créer un état, tu vois. Enfin, en tout cas, créer une ambiance qui est propice à rentrer dans un état. Tu vois. Mais je sais pas comment définir la musique, tu vois, parce que c'est tellement large. Il y a un mec qui s'appelle John Cage, c'est qui a fait le bail où genre personne joue et c'est de la musique, tu vois. Il a aussi fait un morceau qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un bail de genre, c'est un sigle en fait, ASLSLP, un bail comme as, genre as slow as possible, ou... et en fait c'est une note qui dure tout le temps pendant genre des mois, tu vois, et tous les temps d'années, temps de mois, ça change de note. Et c'est un rendez-vous où les gens, ils vont dans cette église spécifique, genre je crois que c'est en Allemagne, pour assister au changement de fréquence, tu vois, genre ça va devenir une autre note. Et c'est un morceau, tu vois, qui est encore en train de se jouer maintenant et qui a commencé il y a des années, tu vois, avant en fait, au moment où il était encore vivant, tu vois. Tu vois, est-ce que ça tu vois, comment est-ce qu'on définit ça? Donc ouais, c'est large, je sais pas comment le définir, mais je suis d'accord avec toi, de ouf. Genre, c'est une ambiance, genre c'est un art du temps, tu vois, genre...
Tu dis ne pas savoir définir la musique, mais comment tu définirais ta musique?
Je peux rallumer ma clope?
Please, so tu veux ça.
Je sais pas comment la définir. J'y réfléchis, tu vois, parce que... évidemment, tu vois, les gens, ils te posent la question quand ils l'ont pas forcément écouté encore, ou qu'ils te connaissent pas, ou que si... Et... je sais... je perçois, tu vois, un peu les directions dans lesquelles j'ai envie d'aller. Je sais qu'en ce moment, j'ai envie de mettre plus de rythme. J'ai envie d'un truc qui pulse. J'ai envie que au niveau de la voix ce soit moins propre, enfin Non pas que c'est magnifiquement propre, mais en tout cas plus de liberté. Parce qu'en fait, avec le chant, il y a aussi beaucoup ce truc, tu vois, de genre l'apparence ou... Ouais, surtout quand t'es une meuf, il y a ouais. ce truc où en fait c'est genre la jolie chanteuse ou le joli machin, tu sais, genre un peu tout poli, tout machin, tu vois. Et en fait, j'ai envie d'un truc plus cru, tu vois, genre j'ai envie de pouvoir lâcher. Je pense que ce qui m'est arrivé physiquement aussi, ça joue sur cette envie-là, en fait, tu vois. Quand je parlais la dernière fois du fait de sortir des canons, tu vois. Il y a un avantage et un désavantage à en être d'une certaine manière sorti, soit à vouloir en sortir, tu vois. Et je pense que l'avantage, il se situe vraiment au niveau de la liberté, genre de l'expression de... Pas forcément qui t'es, parce que qui t'es, je pense que ça évolue, tu vois. C'est genre ever, c'est ongoing, tu vois, c'est en évolution perpétuelle. Donc je pense qu'on peut pas forcément fixer genre qui on est, mais juste comment t'as envie d'exprimer genre les choses genre dans un moment précis, tu vois. Et je sais que j'ai envie de mettre des sons dans ma bouche, tu vois, qui sont pas forcément des jolis sons. Et avec la harpe, j'ai cette envie là aussi, tu vois. En fait, envie de déconstruire dans mon rapport à ça. Et d'être moins dans l'esthétique. Genre, est-ce que c'est fait pour être beau? Mais qu'est-ce que ça va créer comme sensation? Dans quel état, tu vois, ça va nous mettre?
Est-ce que tu veux que ça te dérange?
Je veux pas forcément que ça te dérange, parce que... Moi, ça me dérange quand on essaie de me déranger. J'ai envie de dire non, tu ne me surprends pas, non, tu ne me choques pas. Genre, tu veux choquer. J'ai pas forcément envie que ça te dérange, mais j'ai envie que ça libère. Que ça libère. Et je pense que c'est vraiment par rapport à la féminité, tu vois. Ouais, enfin, en fait, je ressens la peur un peu de... En fait, is it gonna be cute enough? Tu vois. Tu sais, le truc de... It's gotta be pretty. Et en fait, ça m'énerve, tu vois. Je me dis que je ferais peut-être pas de la musique comme ça si je me posais moins cette question, tu vois. J'ai envie de faire un truc un peu sale. Enfin, je sais pas comment, tu vois. Mais un peu, genre... qui soit pas forcément aussi... Ouais. Que ce que j'ai pu avoir envie de faire... tu vois, dans les premiers morceaux qui ont été joués et que je vais continuer à jouer parce que je kiffe de ouf et je kiffe leur vibe, tu vois. Mais il y a une autre vibe qui m'appelle, tu vois. Tu vois, le cri, la dissonance, la percussion, tu vois, le fait de taper. Je pense que ça guérit de ouf. Enfin, moi, ça me fait grave du bien, tu vois. De faire de la percu, de taper quelque chose. Pour taper un rythme, il faut être sûr, en fait, tu vois. Ça donne grave... Il y a de la confiance, en fait, tu vois.
Oui, en fait, ce que tu dis là, moi, ça résonne avec les notions de dissidence, de sortir des carcans, de déconstruire et de faire un pas de côté, voire un pas en arrière... pour prendre un peu de la distance avec tout ce qui est hyper normé dans notre société. Et moi, ça me fait penser un peu au queer. Je sais pas si ça te parle, en fait, cette notion du queer. Mais est-ce que tu te définirais comme une personne queer, ou en tout cas, est-ce que ce qui gravite autour du queer te parle?
Franchement, étrangement, ça me parle pas de ouf. Alors justement, quand j'ai découvert, j'étais plus en mode « Ah, peut-être que... » Et en fait, non. C'est... En fait, je comprends pas le principe de mettre une case autour d'un truc qui est censé être hors case. Tu vois, le fait de poser, genre, en mode... Je le vis un peu comme une... Enfin, ça me rend un peu claustro, en fait, tu vois. Tu vois, comme le bail d'utiliser aussi beaucoup de nouveaux noms pour définir beaucoup de nouvelles... Enfin, pas de nouvelles choses, non. Mais définir des choses qui n'ont pas été... Tu vois, qui n'ont pas pu être discutées. Parce qu'en soi, je comprends, tu vois. Quand on le vit de l'intérieur et qu'il manque des mots pour soi, qu'on ait besoin d'en créer, je le comprends. Mais genre sur le plan global, je trouve que ça fonctionne pas de ouf. Enfin, et moi je me sens pas faire partie en fait. Le truc c'est que moi je me sens jamais vraiment faire partie de quoi que ce soit, donc je sais pas si c'est pas juste ça aussi, tu vois. Mais dans le fond, dans ce que tu dis, oui, mais dans la culture, tu vois, non.
Après, la culture queer, elle est grave remise en question aussi, parce que évidemment, c'est un nom qui vient d'une culture de la blanchité, en fait. Donc, et c'est vrai que, ouais, c'est pas. Quand je te pose cette question, c'est pas forcément par rapport à la culture queer ou quoi. Mais j'essaie de le rattacher en fait à la manière dont tu veux, enfin à là où tu tends musicalement, ou en tout cas ce que tu recherchais, de, tu vois. Enfin, s'il y avait un peu ouais, ce côté-là. Mais si tu te reconnais pas.
Mais l'étrangeté, ça me parle de ouf. Hein. Un truc dont me parlait une pote qui s'appelle Mémé. Il me disait. L'inquiétante étrangeté. J'arrive toujours pas à fixer mon doigt sur exactement ce que ça veut dire, mais plusieurs fois je parle d'un truc à un pote, et c'est Léandre qui m'en avait parlé à un moment, il m'avait dit, ouais, ça, il y a des gens qui appellent ça l'inquiétante étrangeté. Et apparemment, il y a un bail avec le fait de se reconnaître, mais pas vraiment se reconnaître. Et un peu une distance avec comment tu te perçois. Donc la sensation de l'étrange, tu vois, ça me parle de ouf. Surtout, tu vois, moi j'ai une passion pour Magritte. Genre, je kiffe de ouf Magritte. Et les sensations, tu vois, que j'ai quand je vois les images, les tableaux, elles me parlent de ouf. Du coup, dans ce truc d'étrangeté, du coup.
Ah, c'est vrai que Magritte, il y a un côté un peu... des biais cognitifs qu'on a, ceci n'est pas une pipe, etc. Enfin, tous ces trucs un peu plus connus et qui remettent un peu en question ce qu'on accepte de la réalité ou pas, et ce côté un peu étrange et dissonant. Je vois bien. Et question un peu bateau, mais c'est vrai que pour les personnes qui ne te connaissent pas, quand je te parlais de définir ta musique, en fait, est-ce que tu as des inspirations, est-ce que tu vas puiser quelque part ou pas? Et aussi, deuxième question qui s'y rattache, est-ce que tu pourrais décrire ton processus créatif?
Les inspirations. Moi, je kiffe la musique afro-américaine. Bon, j'ai grandi avec ça. Comme je disais tout à l'heure, D'Angelo, Maxwell, Anthony Hamilton. Cette période-là, tu vois, genre le R&B des 90s, 2000, les Destiny's Child, TLC, Angie Stone. I don't want no scrub. Scrub is the kind I can't get no lift from me. There's a new side. Trying to have a
happy.
Mais ouais, toute cette culture là. Après, j'ai craqué de ouf sur Erykah Badu, je suis devenue ouf. Bon, j'écoutais ça pendant des mois. Néné Chéri. Un album de ouf de Néné Chéri qui s'appelle Blank Project. Qui commence à refaire la surface de ma personne. Je fais le lien un peu avec le processus créatif, parce qu'en fait, je pense que ce qu'on écoute, c'est ce qui ressort, tu vois. Et autant, genre, Néné Chéri, j'ai écouté notamment cet album, parce que j'ai en fait tendance à bloquer genre sur un artiste, tu vois, pendant plusieurs mois, et à en écouter genre tous les jours, tous les jours, deux heures de Sade, deux heures de Jasmine Sullivan. Genre, je m'en gave, en fait, tu vois, pendant un certain temps. Et puis après, je laisse un peu faire, tu sais. À un moment, il y a des choses qui ressortent, tu vois. Et là, Néné Chéri, c'est marrant parce que justement, dans cet album, ça rejoint de ouf ce dont on parlait sur l'étrangeté. C'est beaucoup percu. des grosses lignes de... genre de basse un peu rock, enfin un peu genre alternatif, tu vois, et une voix hyper hyper genre nue, tu vois, par dessus, et dans un truc où elle est pas du tout dans, justement dans une esthétique, tu vois, genre de la lisseur. Et du coup, écouter beaucoup de musique, ça fait partie pour moi du truc. Et après, il y a beaucoup de choses que je fais. En fait, à une période où je voulais créer, j'avais pas forcément... Enfin, tu sais, j'avais des phases comme ça où je suis inspirée, mais tu sais, ça me vient... Bah, je sais pas, je suis au milieu de la rue, j'ai une inspiration, je suis pas chez WAM avec tous mes... tout mon matos et tout. Et du coup, j'ai noté, en fait, pendant plusieurs semaines, à quel moment survenaient ces pics. Je me suis rendu compte qu'en marchant, il y avait des trucs qui me venaient. Le fait d'avoir le rythme de la marche, en fait, le rythme des pas, ça me donnait en fait des envies, tu vois. Des mélodies, j'avais des mélodies qui me venaient en tête, et puis ça montait, tu vois, en moi. Ce que j'aimais faire à une période, tu vois, c'est marcher la nuit alors que les gens, ils prenaient des verres. Et je les voyais genre au loin, tu vois. Avec, j'entendais genre la rumeur, tu vois, des gens au loin avec les lumières, avec la flotte. Ça me mettait grave dans une vibe. Marcher longtemps. Tu vois, le morceau Wonderway, genre qui est le plus long, genre, je l'ai pas encore sorti, mais il est venu. Il est venu comme ça, tu vois. Je marchais et puis. Enfin, c'est pas le morceau qui est venu comme ça, mais la graine du morceau est venue comme ça, tu vois. Et the fine northern day. Tu vois, avant de vraiment finaliser sous la forme où c'est aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses qui sont venues en marchant. Après, je passe un long temps à chercher des harmonies sur la harpe ou sur le clavier, à juste chanter des mélodies par-dessus. J'enregistre, tu vois. J'enregistre les phases, en fait, où quand je sens que je suis dans un état, j'enregistre. Et après, tu vois, c'est des trucs que je peux réécouter en marchant. Je vais avoir d'autres idées. Après, je vais re-rentrer, je vais refaire une session. Et au bout d'un moment, je commence à avoir un peu une idée de « Ah, là, il y a un moment, là, il y a un autre moment. » Je peux, tu vois, commencer à former quelque chose, tu vois. Au début, c'est plus comme genre une boule de... Genre, c'est un mélange d'émotions, de sensations, tu vois, qui se traduisent par, tu vois, genre certaines notes, certaines mélodies. Comme quand tu vois un truc flou et de loin, tu vois, mais qui s'approche vers toi, tu vois. Et petit à petit, genre, on se rejoint, tu vois. Et le morceau, il peut se... J'ai pas envie de dire clôturer, parce que le morceau, il est toujours en train d'évoluer, tu vois, mais... Mais tu peux avoir quelque chose de, entre guillemets, fini, tu vois. Ouais, après, un truc dont je me suis rendu compte aussi, c'est que quand je travaille, le moment où je sais qu'il y a une piste, c'est par rapport au corps, tu vois. Il y a un truc, c'est la honte, tu vois. Et il y a une artiste que je kiffe, qui s'appelle Marina Abramovic. Et je la kiffe tellement que je suis carrément partie, genre, J'ai fait les exercices des petits pois et je ris et tout, genre je suis trop déter. Et ça m'a pris grave des trucs. Et elle disait qu'en fait tu partais 3 jours. Alors, enfin, elle emmenait en fait ses groupes de jeunes artistes 3 à 5 jours dans un endroit où il fait soit un peu trop chaud, soit un peu trop froid. Et tu te coupes de tout. Il n'y a pas de graillance. Tu fais que des exercices comme ça. Et ensuite, tu reviens.
Quel exercice ?
Alors, il y a les petits pois. C'est-à-dire que tu prends un bol de... Enfin, c'est plus lentilles-riz. Mais tu prends un bol de lentilles-riz mélangé, tu les sépares. Et tu les comptes. Et marcher dans la nature pendant longtemps. Alors, ouvrir et fermer une porte pendant 3 heures. Regarder un panneau, genre, de une couleur, une autre couleur. Parce qu'elle a un truc avec les couleurs aussi. La marche au ralenti aussi. Tout ça sans manger, en restant sans se parler les uns aux autres, tu vois. Bon, moi, j'étais solo, donc c'était déjà plus facile. Et en fait, quand tu rentres chez toi, tu notes une idée par jour pendant 90 jours. Et à la fin, t'es censé prendre genre les pires et les faire, tu vois. Parce qu'elle pense que les choses que tu veux pas montrer, c'est ça en fait qu'on veut. Moi, quand j'ai fait ça, quand je suis rentrée, j'ai écrit des trucs beaucoup trop hardcore pour les faire. Et du coup, je l'ai jamais fait.
Qu'est-ce que t'entends par hardcore ?
Bah, c'était des idées de performance, du coup. Je sais pas si je suis prête à faire de la performance genre hardcore comme ça. Mais cette expérience, elle m'a appris de ouf, tu vois. Déjà sur la création, tu vois. Ça m'a vraiment permis d'ouvrir des choses au niveau de l'inhibition, tu vois, de lâcher. Même si au final, je suis retournée pour faire de la musique, tu vois. Et j'aimerais bien pouvoir faire le lien avec cette recherche-là aussi, parce que je pense que c'est vraiment, vraiment en lien. D'ailleurs, elle dit que la musique, c'est la première forme d'art.
Si elle le dit.
Attends. J'étais trop saucée. À chaque fois qu'elle dit ça, je suis trop saucée, alors que, enfin, tu sais, elle dit ce qu'elle veut, tu vois. Mais tu vois, je suis en mode, mais oui. Et donc, ouais, je disais ça par rapport au corps, en fait, quand il y a la honte, ou que, genre, je sais pas, genre, je vais travailler un texte et je vais avoir, genre, une bouffée de chaleur, tu vois. Mais tu sais, genre, les bouffées de chaleur que t'as quand, tu sais, tu t'assumes pas un truc, ou tu sais, tu vas avoir chaud tout d'un coup, tu vois. Et ça, en général, c'est un bon signe, tu vois, qu'il y a un truc qui s'ouvre, ou... Tu vois, que ce soit avoir chaud, avoir froid, sentir dans mon corps, il y a des endroits qui s'activent à des moments, que ce soit genre des douleurs ou juste des sensations, tu vois, qui s'activent avec certaines émotions, tu vois. Et du coup, si je sens, même si je suis pas forcément... si on peut pas être conscient de tout, mais si t'écoutes genre un peu, il se passe quoi dans mon corps à ce moment-là, tu sens que t'as une information par rapport à ce que t'es en train de faire, de qu'est-ce que ça dit, en fait, ce que t'es en train de sortir, ça dit ça, tu vois. Et du coup, tu peux faire aussi, utiliser ça comme une boussole, tu vois. Donc j'essaye de m'en servir. Ouais, la honte, il y a un truc à travailler avec la honte. Alors,
tu penses que c'est une honte qui arrive parce que tu sors quelque chose, tu crées quelque chose qui te sort de ta zone de confort, ou même qui te rappelle certaines choses, ou c'est une honte qui est bien plus profonde que ça?
Non, je pense que c'est un truc qui est là, en fait, et qui a besoin d'être d'une certaine manière, enfin, le mot que j'ai envie d'utiliser, c'est verbaliser, mais vu que c'est pas forcément verbaliser, c'est genre exprimer, en fait, tu vois, qui a besoin d'être dit. Qui a besoin de sortir, tu vois. Et un peu ce truc-là, genre... Et aussi les souvenirs, tu vois. Genre, quand tu fais quelque chose, c'est rare qu'on soit totalement dans le truc qu'on est en train de faire au moment où on est en train de le faire, tu vois. Et parfois, tu vois, je peux être en train de travailler et le moment où je vais me dire « Ah tiens, et si j'écrivais ça ?» Je vais avoir un flash, tu vois. Un moment, tu vois, un visage. Et ça, c'est aussi une boussole, tu vois. C'est comme si quand je veux faire un morceau, enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais en fait, j'ai l'impression que le morceau, il existe déjà, en fait, tu vois. Alors, il faut moi juste que je le trouve, en fait, tu vois. C'est un peu genre un jeu de c'est un peu une chasse au trésor, tu vois. C'est pas un truc genre que je vais comme fabriquer, tu vois. Et il y a que genre les émotions dans la recherche, tu vois, il y a que les émotions enfin qui doivent dans l'idéal guider en fait cette recherche. Tu vois, si t'es en train de te dire tiens là, j'ai envie de faire tu vois, et que dans ta tête tu te dis bah non, Mozart il aurait fait tu vois. C'est bon, c'est mal dit, mais
J'aime bien ce genre de questions que les artistes n'aiment pas. Comment tu te vois dans 10 ans, Sophie Sonnino?
Moi j'ai toujours peur de répondre à ça parce que je me dis dans 10 ans on va me faire écouter les trucs et tout. Et déjà je me souviens, j'avais signé un papier quand j'avais 10 ans, disant que j'allais avoir une maison en Espagne, un château en Inde ou je sais pas quoi là, quand j'aurai 27 ans. Et là,
bientôt,
genre.
Ça va, t'as le temps encore.
Bah ouais, j'ai genre un an et demi pour devenir propriétaire de 3 propriétés alors que je suis même pas à peine locataire. Du coup, je suis un petit peu dans. Bah, non, mais j'ai envie que les choses, elles se précisent, tu vois. Alors, après, j'ai aussi la sensation qu'on s'attend à ce que le temps apporte des réponses, alors qu'au final, peut-être que le temps, il apporte juste le fait d'accepter qu'on n'aura pas de réponse, tu vois. Du coup, il y a toujours cet espoir, tu vois, que genre dans le futur, les choses seront plus claires, que les choses seront plus limpides, d'une certaine manière, alors que en fait, peut-être que juste quand on avance, on a juste de plus en plus d'informations, d'expériences de vie, tu vois, qui rendent le tableau plus complexe, tu vois, et dans un truc plus d'acceptation de bon, bah, c'est le bordel, tu vois, mais genre, je sais que c'est le bordel et je le vis bien, tu vois.
Bordel maîtrisé, tu vois, genre.
Ouais, dans une relative mesure. Donc, je sais qu'il y a des choses que j'ai envie de préciser, tu vois, dans la création, dans les envies, de pouvoir mettre plus facilement des mots sur les choses aussi. Des choses sur lesquelles j'ai envie de progresser, tu vois. J'ai grave peur des gens, un truc de ouf. J'ai vraiment du mal, tu vois, genre à parler aux gens. Et ça me pose problème parce que je travaille avec des groupes, tu vois. Et en fait, c'est très très difficile de communiquer. Et j'aimerais vraiment que ça, ce soit plus facile, tu vois. Du coup, en ce moment, je suis à fond sur la liste transactionnelle. Et on fait archi ce qu'on peut parce que à mettre en place, c'est pas évident, tu vois. Mais... Et après, au niveau de la harpe, j'ai vraiment envie de. J'ai envie d'approfondir en fait les recherches sur lesquelles je suis en ce moment. J'ai envie d'être une meilleure instrumentiste aussi, juste, tu vois. Que certaines choses se soient plus faciles. J'ai envie qu'on entende le gospel, tu vois. J'ai envie de. D'un jeu. Plus rythmique, tu vois, plus proche des musiques que j'entends. Je me vois pas à un endroit spécifique, parce que le temps, je le sens glisser vite, de plus en plus vite, tu vois. Et vraiment, je suis pas chaude pour le bail de « Oh, j'ai raté ma vie, je suis passée à côté de ça, j'ai pas eu la force de dire ça, je me suis dit que j'allais faire ça, mais en fait, enfin, tu vois, genre, je suis pas chaude, en fait, tu vois. Genre, je trouve la vie, c'est déjà suffisamment un délire, pour en plus s'empêcher. Et en fait, là, je sens que je m'empêche encore beaucoup, tu vois. Donc, en fait, j'ai plus envie de faire tomber des choses en moi, tu vois, pour être plus à l'aise dans ce monde. Ouais, je pense que c'est vraiment par rapport aux autres, en fait, d'être plus à l'aise avec les autres.
Est-ce que tu t'es déjà senti majoritaire?
Ah yes. Bah, Marie Manonga, je me sens grave majoritaire.
Oh.
Mais c'est factuel, je dis pas ça pour te... je dis pas ça pour te saucer.
Mais tu fais.
Oui, yes. Ouais, et sinon... franchement, je me sens pas... En fait, pour se sentir majoritaire, il faut se sentir faire partie d'un groupe. Et vu que moi, j'ai du mal à me sentir... Je suis pas une meuf qui est dans des groupes, tu vois. Genre... amicalement, tu vois, je fonctionne par binôme... on est en équipe de 2, de 3, de... Enfin, tu vois, genre, mais... Enfin, même pas, je dis 2-3, mais j'ai beaucoup de mal à être à 3 avec, avec les gens. Je trouve que c'est une formule qui est compliquée. Mais à 4, à la limite, tu vois. Mais ouais, en fait, je me sens pas... je me sens seule, en fait, tu vois. Genre, je me sens pas... Je me sens pas faire partie, tu vois, de quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que j'ai tellement envie de chanter avec les gens, genre.
Rien n'est anodin.
Mais du coup, je me sens jamais vraiment majoritaire, tu vois. Je me sens un peu un élément, tu vois. Il y a quelques moments, tu vois, quand on fait de la musique ou quand je reste un peu trop longtemps dans la verdure, je commence à avoir l'impression que mon corps s'arrête pas à la fin de mon corps, tu vois. Mais ça, c'est... Tu rentres dans la ville, c'est fini, tu vois. T'es terminé.
Et qu'est-ce qui te donne de la force, désormais? De la douceur.
De la douceur, c'est les gens. C'est les gens qui sont ultra méga validés, tu vois. Qui sont là. M'apprennent, tu vois, la douceur, parce que moi j'ai entendu toute ma vie, est-ce que t'es une guerrière, Sophie? Dans la vie, il faut être courageux, la vie c'est un combat, tu vois. Donc la douceur, c'est pas du coup forcément le truc le plus évident, mais la force, en vrai, moi je me sens pas, mais après, c'est aussi mon énergie du jour, parce qu'à chaque fois, t'es vu que je vois pas les. Tu sais, je vois pas les comment dire, je vois pas les changements, en fait, tu vois. J'ai du mal à percevoir les changements. Du coup, genre... mais ça, c'est parce que les gens, tu sais, ils me le disent, du coup, je me rends compte, tu vois, mais... Genre, aujourd'hui, je suis dans une vibe un peu basse, tu vois, donc je vais dire, ouais, je me sens pas la force dans la vie. Mais c'est comme si c'était un truc qui était tout le temps, alors qu'il y a des moments où c'est moins comme ça. Mais le truc, c'est que en fait, c'est mon fond de... C'est ma sensation de base, en fait, dans l'existence, tu vois. Tu sais, je suis un peu en mode... J'ai la force de rien faire, j'ai pas la force d'être là, tu vois, genre, je comprends pas pourquoi, tu sais, je lutte, en fait. Moi, c'est vraiment que pour la musique. Ça me sauve vraiment, tu vois. Ça me sauve, c'est vraiment hyper guérissant, tu vois.
Merci.
Ma plaisir.
Merci pour le partage.
Merci à toi.
C'était Extimité. Le récit de la construction et de la déconstruction de personnes minorisées.
Un podcast natif indépendant créé par Douce Dimondo et Anthony Vincent. À retrouver un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts et tout plein d'autres plateformes d'écoute.
Pour nous soutenir, un lien PayPal se trouve en description pour nous faire des dons afin que l'aventure continue.
Pensez à parler d'extimité autour de vous, nous laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et enfin, nous suivre sur nos réseaux afin de suivre toutes nos actus.
Merci.
Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.